Nous allons passer la parole pour la quatrième et dernière intervention de ce panel à Arthur Klesch, qui est chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, qui travaille de manière transdisciplinaire, à cheval entre l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, qui pratique la socio-histoire et qui est rattaché au CERSAC, et qui a beaucoup publié sur l'homosexualité en Union soviétique avant, après la guerre, mais qui va nous parler aujourd'hui du temps de la guerre.
Bonjour, je voulais juste préciser que j'étais doctorant et je n'ai pas beaucoup publié non plus en russe, juste des articles, mais ça va venir. Donc je voulais remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité. Donc, quelle histoire de l'homosexualité en URSS durant la Seconde Guerre mondiale? Cette volonté d'introduire l'URSS aux côtés d'Italie, de l'Espagne, de la Suède, lance le défi d'une histoire comparative européenne de l'homosexualité dans laquelle l'URSS ne figure pas toujours. Cette approche est d'autant plus importante au regard de la situation faite aujourd'hui aux homosexuels et aux lesbiennes dans la Russie d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'actualité autour de l'homosexualité en Russie est brûlante. Elle est depuis au moins 2013 avec l'adoption d'une loi interdisant ainsi que la propagation des relations non traditionnelles auprès des mineurs. Auparavant, une fois l'an, depuis 2006, les médias russes, mais surtout occidentaux, relayaient diversement les tentatives d'organiser des gay prides toujours interdites. Cette loi anti-gay, telle qu'elle est appelée par ses détracteurs, a relancé en Russie un débat sempiternel sur ce qui est la définition d'une identité russe, entre guillemets, identité, et à savoir si cette identité serait antagoniste à une identité européenne. Alors que la criminalisation de l'homosexualité a été abrogée par décret en 1993 par Yeltsin, afin que la Russie entre dans le Conseil de l'Europe, la loi anti-gay a été désapprouvée par cette institution. L'expression « gay-ropa », abrégée en russe pour décrier une imaginaire Europe gay, se répand pour décrier le libéralisme, entre guillemets, européen, voire pour dénoncer l'orientation européenne choisie par une partie des Ukrainiens. Or, des travaux d'historiens, d'anthropologues et de sociologues inclinent à ancrer la compréhension d'une histoire russe des sexualités et des genres dans un contexte européen plus large. C'est dans cette perspective que je comprends l'injonction implicite de cette journée qui présuppose que je rende compte d'une histoire des persécutions homosexuelles en URSS pour les années de guerre 1941-45. Celle de la Grande Guerre patriotique, telle qu'elle est appelée en URSS et en Russie, dont la mémoire est soigneusement entretenue dans la Russie d'aujourd'hui, pour ne pas dire instrumentalisée. Mais comment écrire une telle histoire?
C'est la mieux. Il n'y a pas de micro pour Tom?
Si.
Je vais vous jouer d'animal.
Mais comment écrire une telle histoire? Rien n'a encore été écrit sur l'homosexualité en URSS lors de la Seconde Guerre mondiale et aucun historien, à ma connaissance, n'a trouvé de source sur un tel sujet pour une telle période. Les travaux existants traitent soit de la période antérieure ou de la période postérieure. L'historien Dan Ely a publié en 2001 la monographie de référence « Homosexual Desire in Revolutionary Russia ». Dans une perspective foucauldienne, le travail de Dan Ely a permis de décrire les mécanismes qui présidaient à la régulation de l'homosexualité par la médecine et la police. En revanche, il a occulté dans une certaine mesure la parole des acteurs. J'ai donc écrit un mémoire sur la perception de l'homosexualité de la fin de l'époque tsariste jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui questionne l'accès à l'information des homosexuels et des lesbiennes de ces périodes, marquée par une dépénalisation de la sodomie en 1922, après la Révolution d'Octobre, et sa repénalisation en 1934, sous Staline, et cherche à restituer une parole que l'on peut retrouver aussi dans des contre-discours forgés par les homosexuels eux-mêmes, mais aussi dans des œuvres littéraires écrites par eux. Ce mémoire a donné lieu à deux articles en russe afin de contribuer à nourrir une discussion scientifique dans le champ de l'histoire de l'homosexualité en URSS, puisque seuls les travaux de Dan Ely avaient été traduits et que l'enjeu immédiat était de chercher à démarginaliser un tel champ de recherche. Depuis, mon travail porte sur l'époque soviétique tardive et là aussi contemporaine, avec des longues périodes de terrain en Russie et aujourd'hui en Géorgie. Ma connaissance de l'URSS à l'époque de la Seconde Guerre mondiale ne m'autorise qu'à situer cette période en la contextualisant dans un avant-guerre et un après-guerre, en posant des hypothèses et en proposant des pistes de réflexion. En tout état de cause, les recherches actuelles ne permettent pas d'établir que la Seconde Guerre mondiale ait conduit en URSS à l'intensification des persécutions à l'encontre des homosexuels. En revanche, comme pour tout pays en guerre, elle a sans nul doute été productrice de pratiques homosexuelles. Alors, ma première partie s'intitule « Une histoire des homosexuels de 1905 à la Seconde Guerre mondiale, un traitement inédit ». Donc la question est de savoir si c'est un traitement inédit l'homosexualité. Donc tout d'abord, je me posais la question de savoir si les homosexuels russes ont vécu à l'européenne leur sexualité avant la révolution d'octobre. Les travaux de Laura Engelstein, d'Alexandre Etkin ainsi que ceux de Olga Batic abordent la fameuse question sexuelle, Palavra y Vapros, qui montre des positionnements différents sur la sexualité à la fin du XIXe siècle au sein de l'intelligentsia et qui permettait d'appréhender l'homosexualité sans que la médecine ait le dernier mot et en lui inférant une valeur religieuse et hérétique positive, voir l'œuvre du poète Nicolas Kloïev, et parfois ambiguë, voir l'œuvre de Vassili Rozanov, ou alors d'autres exemples, la trinité que formaient Gippius, Meleshkovski et Philos, dont l'une était hermaphrodite, l'autre hétéro, et le second un homo refoulé. Par ailleurs, en 1903, un projet de loi conçu par les libéraux, qu'on pourrait rapidement qualifier d'occidentaliste, n'aboutit pas, mais remet en question la condamnation de la sodomie en des termes politiques. L'homosexualité ne devait pas, selon eux, être du ressort de la loi, mais de la médecine. La pénalisation de l'homosexualité masculine reprenait un vocable religieux et l'interdit religieux de la sodomie avec le terme de mujlosht, qui signifie en russe sodomie. La première révolution de 1905 contraint le tsar à faire des concessions sur le plan des libertés formelles. De la sorte, Mikhail Kouzmine peut publier Les Ailes, qui devient immédiatement un best-seller et sera en Europe une première défense positive de l'homosexualité avec un happy end qui conclut le récit. L'œuvre de Kouzmine sera appropriée par des homosexuels russes dont la sociabilité et le sentiment d'appartenance à Moscou et surtout à Saint-Pétersbourg ont des ressemblances frappantes avec celles de Berlin, de Paris, de New York ou de Londres, sans qu'il n'y ait, comme en Allemagne, une communauté organisée aussi visible, notamment pour des raisons économiques. Un cercle de poétesses comme Sofia Parnok, qui entretiendra une liaison avec Marina Tsvetaeva, témoigne d'une sociabilité lesbienne dont l'invisibilité apparaît avec encore plus d'évidence que pour l'homosexualité masculine, comme pour nombre de pays européens. Des différences demeurent avec l'homosexualité telle qu'elle a pu être vécue ailleurs. Le régime tsariste épargnera Kouzmine et le dispositif de sexualité n'est pas aussi répressif. La répression de l'homosexualité par l'orthodoxie comme par la police est faible. La morale bourgeoise victorienne n'a que peu d'équivalent en Russie, notamment parce qu'une autre construction de la femme, dont l'autonomie voire la force physique, ne sont pas niées. Il faut préciser en outre que l'homophobie d'État avait été apportée d'Europe depuis Pierre le Grand, dans son désir de modernisation de la Russie. Ensuite, on assistera avec les années 20 à l'émergence d'un nouveau regard sur l'homosexualité et sur le genre, tout en laissant des ambiguïtés sur leur traitement pratique. Dans le code pénal de 1922 puis de 1926, la dépénalisation est entérinée par les bolcheviks. Il s'agit d'une démarche progressiste qui, aux côtés de l'autorisation de l'avortement, d'un droit au divorce dont la procédure est aussi simple que la procédure ordonnant le mariage, marque une rupture avec le régime tsariste dans un souci de décléricalisation en s'inspirant notamment de la dépénalisation française de 1791. J'avais notamment dans mes travaux antérieurs à mon doctorat mis en valeur le traitement moderne de la question du viol. Le code pénal ne fait, à l'exception d'un article, aucune mention de genre ni de sexualité. Un regard inédit sur la sexualité se dégageait de ces textes qui permettaient de penser la sexualité et le genre en dehors de ces catégories. Ces lois ne sont pas sans effet. Ainsi, d'après une étude de cas, dira Roldugna, sur une rafle d'homosexuels par la police au début des années 20, il est avéré que des homosexuels de tout milieu et de tout âge ont pu prendre acte rapidement de la dépénalisation, ce qui leur permettait de ne plus redouter la police. En revanche, comme dans d'autres pays européens, ils se présentaient comme sujets à une maladie. De manière générale, l'homosexuel et la lesbienne sont remis aux mains de la médecine qui envisageait l'homosexualité en ignorant la psychanalyse, pourtant largement diffusée dans les années 20. L'homosexuel souffrait, selon ses médecins, de problèmes physiques. Comme gage d'indépendance, les médecins judiciaires avaient été transférés du commissariat de la justice pour le commissariat de la santé, dirigé au début des années 20 par Semanchenko, qui a pu, à Berlin, se targuer du caractère progressiste de sa législation dans un pays où la sodomie était encore condamnée. Progressivement, ces médecins travailleront comme experts sur commande de l'État et ce transfert de compétences entre ministères apparaît tout à fait formel dès les années 30. Dans la pratique, l'homosexualité a pu faire l'objet de poursuites judiciaires dans des affaires médiatisées impliquant des moines, même lorsqu'il s'agissait de relations consentantes. En outre, pour les républiques du Caucase, sauf pour l'Arménie, ainsi que pour les républiques d'Asie centrale, l'homosexualité est poursuivie car elle était confondue, notamment pour les républiques d'Asie centrale, avec la prostitution masculine de mineurs, en référence à la tradition des jeunes danseurs appelés bachi, vendus par leurs parents. L'efféminement était compris alors comme une marque par les bolcheviks, était compris alors comme une marque d'arriération, tandis que la masculinisation relevait de la modernité. Ainsi, une femme de type masculine, entre guillemets, c'est l'expression en russe, pouvait être considérée avec bienveillance par le régime. Le désir homosexuel n'avait guère été pensé en des termes politiques par les bolcheviks, bien qu'un désir sexuel individuel émancipé soit revendiqué comme condition de la révolution par Alexandra Kollontai, dont les idées avaient certes pignon sur rue, sans représenter pour autant l'opinion de tous. Lénine, par exemple, craignait que la jeunesse ne disperse de trop son énergie révolutionnaire. En ce qui concerne les intersexes, jusque dans les années 30, les médecins semblaient, selon Danelet, être plus progressistes que leurs homologues européens, en laissant à leurs patients le choix du genre et en leur proposant les secours de la chirurgie. Par ailleurs, des passeports masculins ont pu être délivrés à des personnes assignées femmes à la naissance et revendiquant une identité masculine à la fin des années 20. J'y vois là un trait marquant du dispositif de sexualité soviétique qui appréhendait la transsexualité avec davantage de compréhension que l'homosexualité, aussi bien féminine que masculine. Donc, ma deuxième partie porte sur la politique de persécution des homosexuels qui ont été interrompues par la guerre. C'est-à-dire que vous allez comprendre après. Les années 30, héritières. Donc, la question de savoir si les années 30 étaient héritières des années 20, sachant qu'un investissement du politique est flagrant dans la dénonciation de l'homosexualité est une question qui, finalement, est réduite au silence. La pénalisation de l'homosexualité masculine a été entérinée en mars 34 avec l'aval du Politburo et donc de Staline qui, fait notable, a refusé de reprendre les explications de la loi anti-sodomie ukrainienne, prévoyant même un article spécifique pour réprimer les prostituées masculins qui exerçaient leur activité dans la rue. Il fallait sans doute ne pas rendre publique l'existence de cette prostitution masculine dans les rues, prostitution qui conservait des traits permanents depuis la fin du XIXe siècle. Un minimum de la peine pour les relations consentantes a été fixé à 3 ans pour s'assurer que les homosexuels iraient dans des camps de travail et non dans de simples prisons. La peine maximale était de 5 ans. Le travail de l'historien sur un tel sujet est obstrué par l'accès difficile, voire parfois impossible, aux archives. Cependant, Danelet est parvenu au milieu des années 90, dans un contexte plus favorable qu'aujourd'hui, à étudier de près des condamnations. Néanmoins, les archives du FSB, donc l'actuel KGB, ainsi que les archives du président ne lui étaient pas ouvertes. Ainsi, peu de documents rendent compte des motivations qui présidaient à la réintroduction de la pénalisation de la sodomie. Cependant, la correspondance que Yagoda entretient avec Staline, donc Yagoda est à la tête de la police secrète politique, le NKVD, donc on peut y trouver une dénonciation pour Yagoda de la corruption de la jeunesse, comme il dit, et des jeunes marins, parce qu'il appelle les pédérastes, entre guillemets, qui porterait ainsi atteinte à la sécurité de l'État. Un contexte international spécifique représente l'homosexualité comme la marque de l'étranger à la solde de l'ennemi depuis l'incendie du Reichstag par Van Lubbe, un anarchiste danois homosexuel. France Termoine a pu écrire sur l'accusation d'homosexualité faite par les nazis à l'encontre des soviétiques. Maxime Gorky fera de même en écrivant un article qui fonde la pénalisation de l'homosexualité sur la préservation de la sortie du prolétariat soviétique qui l'oppose au peuple allemand, se dégénérant dans une triade de fléaux sociaux qu'il nomme ainsi l'alcoolisme, la syphilis et l'homosexualité. Il résume sa pensée en un appel au génocide, supprimer les homosexuels, le fascisme disparaîtra. D'autres motivations peuvent être invoquées, notamment la panique démographique, consécutive à l'industrialisation accélérée du pays, à un moment où le pays était censé se mobiliser dans la guerre antifasciste. Remarquons au passage que le régime actuel russe s'est référé aussi à la démographie pour disqualifier les revendications des homosexuels et des lesbiennes russes. Elle a pu en partie compter les inculpations sur le chef d'accusation de sodomie, avec une moyenne de 1000 inculpés par an, bien qu'il manque des chiffres pour les années staliniennes. Des homosexuels pouvaient, comme le poète Nicolas Kluyev, être condamnés sous d'autres chefs d'accusation, propagande antirévolutionnaire, alors que leur arrestation avait été clairement motivée par leur homosexualité. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une logique différente de la logique nazie, puisque l'homosexuel, comme la prostituée, était censé, en URSS, se réhabiliter à travers le travail dans le camp. Le caractère politique de la condamnation de l'homosexualité est à lire dans la traîtrise qui était censée incarner l'homosexuel, espion par excellence, puisque toute sociabilité masculine qui échappait au contrôle du pouvoir apparaissait comme suspecte, traître à sa masculinité, enfin perçu comme tel, dans une dichotomie du genre, sémantique spécifique. Enfin, comme la femme avorteuse, il se soustrayait au devoir social d'engendrer des futurs soldats. Cependant, l'application de la loi antisodomie, malgré le souhait de Staline de remplir les camps, a parfois donné des peines inférieures à 3 ans. Enfin, dans la liste des accusations qu'accable Yejov, le successeur de Yagoda, qui avait mené les purges en dirigeant le NKVD, c'est l'homosexualité qu'il reconnaît le plus volontiers, dans une argumentation faisant la part belle à son irresponsabilité pénale, avant qu'il finisse par être exécuté en 1938. C'est ici que l'on pointe du doigt le caractère contradictoire de cette loi. D'une part, l'homosexuel apparaît comme un élément socialement étranger, d'autre part, il est considéré comme un psychopathe, alors qu'il est associé à des régimes décadents ou arriérés. Un article de loi atteste de son existence en URSS. Il ne s'agit donc pas d'un tabou complet. Notons au passage que ce caractère maladif a pu être ensuite exceptionnellement être revendiqué pour échapper à la répression pénale. J'ai deux entretiens d'hommes qui, dans les années 60 et les années 70, ont échappé à l'incarcération à condition d'être suivis par des psychiatres. L'un des deux a subi une thérapie de choc et autre expérimentation censée guérir, entre guillemets, une homosexualité qui était considérée alors comme une schizophrénie légère, autant pour les hommes que pour les femmes. Hormis l'article de Gorky et la condamnation de Yejov, l'homosexualité appartient au registre de l'indicible dans les années 30. Les homosexuels sont étroitement surveillés par la police et à la veille de la guerre, sans que les détails de la discussion soient encore accessibles, une persécution massive des homosexuels avait été envisagée par le Politburo. Alors, maintenant passons à la Seconde Guerre mondiale, dont je n'ai presque aucune information. Mais on va essayer d'interroger le sujet pour essayer de l'ouvrir. Alors, la Seconde Guerre mondiale, donc des pratiques libérées, entourées de silence. Donc, Igor Kon a une jolie expression pour le dire, la conspiration du silence qui, selon lui, caractériserait la sexualité soviétique. Malgré une quantité importante de travaux d'historiens consacrés à la Seconde Guerre mondiale en URSS, on n'a encore aucune idée de comment les femmes et les hommes homosexuels vivaient, ni quelle était l'ampleur des persécutions, qu'il s'agisse des camps ou des hôpitaux psychiatriques. La Seconde Guerre mondiale apparaît de manière générale comme une période où la confusion règne les premières années de la guerre, où la désorganisation d'un immense pays ne permet plus à Staline de contrôler la population comme auparavant, sachant que le contrôle n'a jamais été total. Dans des circonstances catastrophiques, la population fait face en s'organisant par elle-même, en regagnant une autonomie perdue. La censure faiblit notamment à l'endroit des réalisateurs ou d'écrivains qui publient ce qui aurait été inconcevable d'être publié quelques années plus tôt. Ces marges de manœuvre naissantes se rétréciront dès que le tournant de la guerre sera amorcé, c'est-à-dire en 1943. C'est aussi l'époque d'une trêve avec l'Église orthodoxe qui a invité en 1943 à s'unir à la mobilisation nationale. En se fondant sur des journaux intimes et des mémoires, Oleg Boudnitsky a fait l'histoire de cette licence sexuelle nouvelle chez les hommes et les femmes participant à l'effort de guerre, tant au front qu'à l'arrière. Il pense qu'elle est annonciatrice de ce qu'il appelle la révolution sexuelle des années 60, de la déstalinisation opérée par Khrouchtchev. Le nombre important de femmes dans l'armée rouge, 800 000, aurait offert des possibilités de satisfaction sexuelle au plus gradé. Mais bien que plus important que dans les armées occidentales, ce chiffre reste bien inférieur au nombre d'hommes combattant sur le front. Apparaît à cette époque un conflit moral. La fidélité louée dans des chansons et des poèmes aurait été contrecarrée par le souci de compassion qui était censé porter les femmes envers des jeunes hommes dont les chances de survie étaient faibles. Un poème de Simonov en témoigne, mais sera ainsi censuré en 1941, tandis qu'un autre de ses poèmes, « Attends-moi, je reviendrai », sera popularisé. Dans un même temps, les paroles d'une chanson reprenant le même message de fidélité ont pu être réécrites par des soldats pour exprimer une morale au jour le jour justifiée par les nécessités de la guerre. Et donc, ils pouvaient comprendre aussi l'homosexualité, même si pour le moment, il n'y a pas de source. Lorsque cet historien russe est intervenu à l'EHSS, une question sur les pratiques homosexuelles des soldats lui a été posée. Il n'a pas compris la question. On ne s'étonne pas alors que ce questionnement soit absent de ses travaux. Bien entendu, les journaux intimes étaient cryptés, puisqu'ils pouvaient toujours être découverts, sachant qu'en outre, les soldats du front n'avaient pas le droit d'en tenir un. Cependant, les mémoires publiées depuis les années 90 ne cachent plus toujours cet aspect sexuel. Une formule tirée des mémoires de Nicoline, un acteur célèbre, formule de façon efficace les trois sujets de conversation des soldats. La bouffe, le sexe et la mort. Il a été établi récemment qu'un effort particulier avait été entrepris pour bien nourrir les hommes combattant sur le front. Enfin, bien nourrir par rapport à l'arrière. Contrairement à certains lieux de relégation où l'épuisement physique gagnait les détenus, en particulier durant la guerre, c'est l'armée, bien plus que le goulag à cette époque, hein, de la Seconde Guerre mondiale, qui était l'institution la plus productrice de pratiques homosexuelles, enfin, me semble-t-il. Il faut noter en outre qu'à la différence des troupes alliées, aucune permission n'était accordée aux soldats soviétiques. L'État ne semble avoir régulé en aucune façon la sexualité de ses soldats. Il est possible donc que les autorités aient fermé les yeux sur ces pratiques, comme il a pu fermer les yeux sur de nombreuses autres libertés dont les soviétiques s'étaient saisis durant les années de guerre. Des questions sans réponse demeurent. L'amitié et la camaraderie appartenant au discours homosexuel n'ont-elles pas été réinvesties par des soldats qui se réapproprieraient ce discours pour dissimuler leurs relations homosexuelles? Le rôle de l'alcool distribué généreusement pour encourager l'héroïsme des soldats ne permet-il pas une expression plus libre des désirs? Si on a relâché des détenus de droit commun pour qu'ils servent en première ligne, a-t-on relâché des hommes condamnés sous le chef de l'article anti-sodomie? Ces hommes qui servaient de bouche à canon n'étaient-ils pas exposés davantage à des services sexuels, voire à des viols, puisque la violence était une constituante majeure de leurs rapports sociaux? De manière générale, la forte hiérarchie de l'armée rouge n'entraînait-elle que l'exploitation sexuelle des femmes et non des jeunes hommes vulnérables, comme cela a été le cas dans les camps? Rappelons que les travaux de Kunzmann ont montré dans quelle mesure cette expérience massive des camps a prêté à l'homosexualité des traits violents dans l'imaginaire collectif russe et puis soviétique, appartenant au monde des droits communs qui imprégnera la perception soviétique de l'homosexualité. Dans quelle mesure la banalisation de la violence qui marquait la sexualité, la vie dans les camps, a marqué la vie des soldats et des soldates au front? Alors, la conspiration du silence de l'après-guerre. Encore une période qui n'a pas été étudiée, mais faites-le, hein, je vous lirai volontiers. Ceux et celles qui reviennent du front se sont construits dans une violence qui se traduit par l'importance du nombre de viols après la guerre. Les femmes du front sont regardées d'un mauvais œil, parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir pratiqué une licence sexuelle débridée. L'après-guerre correspond en URSS à un backlash, à un retour du bâton, qui n'aurait peut-être cédé en rien aux années 30 si Staline était mort en 53. Une censure forte frappe d'abord les arts et touche par exemple Akhmatova, qui est accusée d'être débauchée. Des campagnes se suivent notamment avec la célèbre campagne contre le cosmopolitisme qui met à l'index les juifs accusés de trahison. Les soldats de l'armée rouge faits prisonniers par les Allemands sont envoyés au camp, ce qui prolongera une expérience d'homosociabilité qui devait nécessairement encourager des pratiques sexuelles, homosexuelles. Le régime rend plus difficiles les conditions de divorce d'une part, mais vu le déficit d'hommes, il soutient dans un même temps les familles monoparentales. Les femmes continuent à travailler, mais doivent céder les postes décisionnaires aux hommes, ce qui ne va pas sans tension. Le déficit d'hommes a sans doute favorisé aussi des relations homosexuelles féminines. Alors, j'ai trouvé avant-hier, juste, donc dans un journal soviétique satirique, Krokodil, qui sera censuré beaucoup plus à partir de 47-48, mais qui bénéficiait encore du marge de manœuvre d'expression en 45 et en 46, se fait en 45 l'écho des changements dans les rapports hommes-femmes, témoignant du retour des hommes au front alors que les femmes s'étaient débrouillées sans eux. On a encore un nouveau mécanicien en chef au Kolkhoz, c'est un dialogue humoristique, hein. On a encore un nouveau mécanicien en chef au Kolkhoz, on pose la question qui? On répond le mari de notre mécanicien en chef. À la lecture de cette plaisanterie, un doute jaillit puisque le terme mécanique en russe s'accorde seulement au masculin, alors que de nombreuses femmes exerçaient ce métier. Le mari mécanicien d'un mécanicien apparaît cependant très queer dans la formulation, même pour une oreille russe. Si l'avortement est autorisé ensuite sous Khrouchtchev, le nouveau code pénal reprend dans les années 50 la condamnation stalinienne de la sodomie. Il s'agira du fameux article 121 qui sera abrogé en 93. Danelay évoque une explication, mais Olga Jouk l'avait déjà évoqué au début des années 90. La libération de nombreux prisonniers des camps a pu être porteuse d'anxiété pour le régime soviétique, craignant que les pratiques homosexuelles se généralisent. L'homophobie Khrouchtchev trouvera à s'exprimer en 62 lorsqu'il commande la destruction d'une exposition de l'artiste d'avant-garde en les traitant de pédéraste, je cite. Afin de lutter contre la bureaucratie, Khrouchtchev incite les soviétiques à reprendre l'initiative à la base, ce qui donne lieu à la présence dans la rue de milices de volontaires qui pouvaient interpeller toute personne dont l'apparence ne leur paraissait pas conforme au code vestimentaire soviétique en usage. Donc, ce qui pouvait donner lieu à une persécution des dandys de l'époque qui s'appelait les Stiliags. Mais, à mon avis aussi, ça devait restreindre les modes de reconnaissance des homosexuels, puisque dans les témoignages que j'ai pu avoir, ils se contentaient justement d'une reconnaissance à travers le regard. Contrairement à un code vestimentaire très élaboré avant la Révolution. Et qui est jusqu'aux années 30 d'ailleurs. On peut supposer que cela n'aidait guère la visibilité des homosexuels. Si d'une part la population connaît un meilleur être avec un accès à un logement individuel, ce qui pouvait faciliter une sociabilité homosexuelle qui pouvait se dérouler dans les appartements, il n'est pas certain que les promenades nocturnes dont Kouzmine témoigne et dont la forme ne changeait guère, qu'il s'agisse des années 10, 20 et du début des années 30, puissent se dérouler aussi facilement lors du dégel. En même temps, des lieux de rencontre fixes se concentrent dans les deux capitales, par exemple près du Balachoï de Moscou ou au jardin de Catherine II à Leningrad, avec une culture des toilettes qui rappelle celle qui existait dans d'autres pays occidentaux. Ces lieux sont très surveillés par la police et infiltrés par des mouchards. Ils subsisteront d'ailleurs, ces lieux, jusqu'à la fin des années 90. Cela nous amène à nous interroger. Peut-on donc parler de dégel pour les homosexuels et les lesbiennes soviétiques, sachant qu'une répression psychiatrique de l'homosexualité se met en place progressivement et qui perdurera plus longtemps encore qu'aux États-Unis et en Angleterre? Cette répression psychiatrique touchera en premier lieu les lesbiennes, mais aussi certains hommes. Donc l'histoire de l'homosexualité, là je fais ma conclusion, l'histoire de l'homosexualité en URSS de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-guerre, appelée aussi stalinisme tardif, et l'histoire de l'homosexualité du dégel reste à écrire. Son écriture s'avérera particulièrement ardue en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, qui en russe est appelée Grande Guerre patriotique. Tant que l'homosexualité sera assimilée d'une façon ou d'une autre à une trahison, l'accès à des sources sera entravé. C'est une guerre dont le régime soviétique a fait la première source de sa légitimation, et particulièrement dans les années 70, faute de projet politique. Mais c'est une guerre dont le régime russe actuel se réclame aussi, ce qui peut être reçu favorablement auprès d'une partie de la population ukrainienne nostalgique de l'URSS. Dans une perspective comparative, il serait instructif d'analyser les changements quant aux persécutions des homosexuels dans les territoires soviétiques occupés par l'Allemagne nazie. L'historien Éric Le Bouris m'a confié hier que des historiens lettons s'interrogeaient sur l'identification de détenus au camp de Salapsis, à savoir s'il y avait ou non des triangles roses et des triangles noirs. Pour ce camp, les sources restent insuffisantes. Ce genre de piste ne manquerait pas d'intérêt afin de réévaluer les persécutions des homosexuels en URSS à l'aune des persécutions menées par des nazis, dont le caractère systématique et la logique exterminatrice ont donné sans doute des pratiques différentes. Par ailleurs, le triangle rose ainsi que le triangle noir ont été depuis 2011 réinvestis par les militants LGBT. C'est ainsi qu'ils s'appellent en russe. Il est intéressant de noter que ce réinvestissement de la mémoire des persécutions des gays et des lesbiennes sort du cadre national en faisant référence aux persécutions nazies, tout en sous-entendant les persécutions staliniennes et l'homophobie d'État actuel, puisqu'on peut y lire aussi une accusation de fascisme à l'endroit du gouvernement d'aujourd'hui, du gouvernement russe. Ce n'est que très récemment que Mémorial a ouvert une discussion avec des organisations LGBT pour commémorer la persécution homosexuelle sous Staline. Le travail des historiens sur ces périodes est donc très attendu, afin qu'ils puissent peut-être nourrir, si c'est possible, un débat en Russie sur l'homophobie et les persécutions dont les homosexuels comme les lesbiennes ont été l'objet. Il faut néanmoins garder à l'esprit une perspective comparatiste pour estimer cette perception à l'aune des persécutions qui ont eu lieu en Europe occidentale, notamment en RFA et en Grande-Bretagne. Il reste un travail comparatiste pour comprendre les différents traitements de ces persécutions selon qu'on habitait en URSS ou dans une république populaire socialiste qui, comme la RDA, apparaissait comme un Occident proche. Pour mémoire, l'homosexualité a été abolie en RFA un an après. J'ai fini. L'homosexualité a été abolie en RFA un an après qu'elle a été en RDA. Au sein d'un pays aussi contrasté que l'URSS, les républiques des Pays-Baltes apparaissaient aux yeux des gays russes auxquels j'ai pris des entretiens comme un Occident de liberté sexuelle sur les questions de sexualité et de genre, tandis que les républiques du Caucase ou d'Asie centrale ne l'étaient pas, tout en prêtant à des fantasmes orientalisants. Voilà. Je vous remercie pour votre patience.
Présenter à la fois l'état des recherches et indiquer beaucoup de pistes qui restent à explorer, avoir resitué votre sujet dans une perspective beaucoup plus longue et mise aussi en synchronie avec les questions d'identité actuelles. Il nous reste 10 petites minutes, même à peine 10 minutes pour un débat. Donc je vois déjà quelques mains qui se lèvent. Peut-être on va rassembler quelques questions. Monsieur, le micro arrive.
Okay. Je vais parler en français, excusez-moi si je ne parle pas parfait. Bref, je m'appelle Dario Petrosino, je suis un docteur de recherche italien et j'ai étudié dans ma dissertation la répression de l'homosexualité en Italie et en France de 1952 jusqu'à la première 80 ans du XXe siècle. Avec des données jusqu'à 1967, en Italie et en France. Alors, ma demande est liée au cours de M. Benaduzzi parce que j'ai étudié l'Italie. J'ai pensé, parce que en cas français, c'est manquant dans le colloque, j'ai étudié les années après la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai trouvé des documents sur la répression de l'homosexualité en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Le même document, document très similaire à le document trouvé en Italie dans les années du fascisme. Oui. Alors, deux documents en particulier, il y a une ordonnance sur la répression de la pédérastie. La date c'est novembre 1938, c'est français. Dans le document, il expliquait qu'on se lutte contre la pédérastie, mais les homosexuels sont attaqués comme un groupe social criminogène, auteur de crimes. C'est très similaire à la circulaire sur la répression de la pédérastie. Signé en Italie. Un altro documento trovato nelle archive della prefettura di Polizia di Parigi.
Nous avons peu de temps.
Oui, j'ai terminé. C'est l'historique qui lit tous les événements sur la répression de l'homosexualité et de la prostitution en France de 1903 jusqu'à 1956, donné avant la modification du code pénal. Alors, je crois que je crois que en cas français pouvait être exposé. Pourquoi non? Ok, la demande se posait pas, mais c'est Benaduzzi à les organisateurs.
Si j'ai bien compris, c'est plus un commentaire.
Oui. Je crois que le cas français, c'est très intéressant.
Oui, elle était déjà un petit peu soulevée aujourd'hui. Le cas britannique non plus n'a pas été exposé, on n'a pas le temps. Je crois que c'est une question déjà de temps. On verra dans le cadre d'une publication s'il y a un élargissement possible à d'autres pays. Je ne sais pas si les organisateurs ont une réponse à apporter.
Je vais répondre à deux questions parce qu'elle m'a aussi été posée. Donc, l'idée de cette journée, c'était d'une part de déplacer la focale par rapport à toutes les recherches qui existent sur l'Allemagne, qui est particulièrement bien documentée. Ça, c'était un premier point. Le deuxième, concernant la France qu'on appelle depuis mon Alsace natale la France de l'intérieur, a été un tout petit peu travaillé par la Fondation pour la mémoire de la déportation, et ça a été rappelé lors de la discussion précédente par Frédéric Stroh, à savoir qu'il y a 17 ou 18 cas qui ont été retrouvés. En revanche, et bien ce qui concerne la France annexée, c'était le point sur lequel on souhaitait vraiment apporter des données nouvelles, étant donné que c'est aussi le lieu qui porte le plus à débat, et on y reviendra d'ailleurs dans le prochain panel qui sera dédié à la mémoire et à la commémoration. Je passe tout de suite la parole à la prochaine question, vu qu'on doit faire vite.
Qui vont être des questions brèves.
Ich habe zwei Fragen. I have two questions to Lorenzo Anadusi. You mentioned in your dissertation, published a few years ago, that approximately 300 men were persecuted by the Duce regime. Have you newer results so that have been increased, these figures? That's the first question. And the second is, in the Italian society, there was a discussion in the middle of the 30s about the so-called Italian race. And as we know from Germany, from the fascist Germany, the protection of the so-called German master race was a fundamental motive for the persecution of homosexuals too. Was it the same situation in Italy, or was it more or less not so important?
Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions qu'on pourrait prendre tout de suite avant de donner la parole aux intervenants?
Oui, j'ai une autre question qui, en fait, elle serait plus intéressante vis-à-vis de l'Italie, mais elle a un intéressant pour tous les pays. C'est, vous avez parlé en fait de 1927. C'est aussi, et donc la fin des années 20, c'est aussi un moment de rapprochement de plus en plus important avec le Saint-Siège du fascisme. Est-ce que du coup, est-ce que la dimension religieuse peut être un aspect intéressant de ces transformations à ce moment-là? Et si c'est, si c'est quelque chose aussi de représentatif dans les autres pays? Merci.
Okay.
I try to be very, very quickly, to answer very quickly. First of all, I don't know new elements, new number of homosexual confinement, because the documents are we don't have new documents, and the documents are not. Are not the same for all the cities. So, for example, we know very well the history of Catania or Venice, but not the history of other homosexuals in other cities. But it's important to understand that the confinement is not the only measure, not the only way to repress homosexuality. We don't have in Italy a law in the penal code, but we have, for example, the insult at decency, and was very useful to against homosexual, or for example, corruption of the younger, and other similar laws that were widespread in Italy during the fascist period. The second question is linked with racism, and I think that the idea of new man is has inside the idea of racism, and so it's not so important for me the Ethiopian war in the case of homosexuality, but at the beginning, from the beginning to the end of fascism, we have the same effort to change the Italian also sexual characters. And so we can see some elements also at the, from the 1927 when we have the Confino and after. So I think that racism is only an improve the effort, but not is the real reason of the attitude against homosexual. And about church, I think is important to understand the link between fascism and religion and politics and religion. But the difference is also for me the important difference is the idea of the link between public and private. For the religion, we mean something that is a private a moral conduct. For fascism is something that have a link with politics.
I can say something about the Lutheran Church of Sweden. I'm not sure I agree totally with you with the dividing line between church and religion and politics, but certainly in Sweden the church had a very political role in a sense, because it is a state church, a Lutheran state church, and I looked very much for some kind of reactions to homosexuality, and I found very little actually. It was there were very big concerns in the Church of Sweden about the secularization, the godlessness in the 1930s. Only when homosexuality was decriminalized, too late, that is, the bishops wrote a very angry letter to the government, and that didn't have any effect. And then in the 1950s, during the big homophobic or homosexuality scandals in Sweden, the bishops also wrote pastoral letters to the parishes warning against homosexuality. But no, I mean, the Church of Sweden was very passive, extraordinarily passive in that question.
Justement, je pense que c'est, à mon avis, la grande différence du fait que l'entreprise de déreligisation de nos soviétiques, elle a plutôt bien réussi. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, hein, même contrairement à ce que les médias présentent, comme une grande partie de la population reste athée ou a des pratiques qui sont très, très rares, c'est-à-dire qu'ils vont aller une fois ou deux fois à l'église. Mais, donc, le rapport entre l'Église et l'homophobie pour la période soviétique, il peut être juste discréditant dans des cas où des prêtres, par exemple, sont mêlés à des affaires de pédophilie, ou même quand il y a aussi des relations homosexuelles consentantes. Où là, pour le coup, les bolcheviques n'hésitent pas à être homophobes.
Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait d'autres demandes de prise de parole dans le public. Malheureusement, il faut nous arrêter là. Mais en revanche, nous allons pouvoir poursuivre peut-être la discussion autour d'un café dans la pièce d'à côté. Je crois que nos orateurs de l'après-midi seront encore prêts à répondre à vos questions dans la salle à côté. Un grand merci à tous.